Retrouve l'invité du jour sur Sudfollaweb.
Flore Iboura, bonjour Flore Iboura.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Sudfollaweb, également en simultané sur Radio Mer d'Otan et Val Pyrénéos. Donc je vous rappelle que c'est la semaine de la radio, donc il y a une programmation spéciale sur Sudfollaweb. On va parler radio avec vous, Madame Iboura. On va parler règlement, on parle pub, bref, on parle de tout ce que vous écoutez, vous, les auditeurs, quand vous vous levez ou que vous prenez la voiture. Donc Madame Iboura, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la secrétaire générale du CTA à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est que le CTA ?
Oui, c'est l'un des comités territoriaux de l'audiovisuel. Donc, il y en a à Toulouse, mais il y en a à Marseille, à Bordeaux, voilà, dans toute la France.
D'accord.
Métropolitaine et aussi outre-mer. Donc, il y a des comités territoriaux qui étaient autrefois les CTR, comités techniques radiophoniques.
Oui.
Mais nous avons des nouvelles compétences dans l'audiovisuel, et donc on ne pouvait pas garder le radiophonique puisque nous avons des compétences en télévision locale. Par conséquent, depuis 2010 et en particulier 2011, c'est devenu comité territorial de l'audiovisuel, CTA.
D'accord.
Avec une capitale en général qui a collé, CTA de Rennes, CTA de Marseille, mais qui ne préjuge en rien de la compétence territoriale, c'est-à-dire depuis l'origine, pour ce qui nous concerne, les 13 départements aujourd'hui de la grande région, mais qu'on appelait autrefois Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.
Tout à fait. Donc maintenant, vous êtes, j'ai bien compris, vous faites la grande région.
Comme toujours.
D'accord, ok.
Sauf que ça s'appelle autrement.
D'accord.
Ça va s'appeler d'ailleurs en juin. Il y aura une dénomination qui sera fixée. Pour le moment, c'est Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées jusqu'à juin. Mais ça ne nous change en rien puisque nos radios se sont développées au sein de ce comité, donc sur les deux régions à l'époque, et donc par le jeu d'appel aux candidatures, ils ont pu chaque année, une fois en Languedoc-Roussillon, une fois en Midi-Pyrénées, se permettre certains développements que n'auraient pas pu se permettre des services dans le même ensemble.
D'accord. Alors moi j'ai envie de vous connaître un peu plus, Flore Iboura. Quel est votre rôle donc au sein du CTA, du CTR ?
Alors oublions CTR puisque c'est vraiment le passé absolu.
Donc du CTR.
Donc le CTA de Toulouse. Donc à l'origine et aujourd'hui encore, les CTA sont les antennes locales du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Ça, c'est la base. Donc, même si nos compétences ont évolué, on en parlera plus tard, on est une antenne locale. Mmh. Donc, cette antenne locale, elle est, si vous voulez, constituée d'un comité, donc un président, 6 membres, et de permanents, d'agents permanents qui vont s'occuper de postes particuliers. Donc, mon collègue Hervé Serre, bien connu des radios, sillonne les 13 départements pour la radio, pour les antennes de télévision. C'est lui qui est le technicien du comité. Ensuite, nous avons Christine Del Borello, qui est l'assistante précieuse du comité. Donc un rôle de secrétariat et évidemment moi-même qui m'occupe du reste, c'est-à-dire le juridique, le programme, les liens avec le CSA, les liens avec les opérateurs et qui représente le conseil en région. Voilà.
D'accord, ok. Vous avez expliqué donc la différence, enfin il n'y a pas de différence entre le CSA et le CTA, du coup on a bien compris que le CTA c'était bien...
Si, il y a une sacrée différence.
Y a la différence c'est que le CTA est en termes de local, le CTA, c'est ça, et le CSA ça va être tout ce qui est national.
Voilà,
tout à fait.
Avec des compétences très différentes. Maintenant, depuis 2010-2011, nous avons des compétences sur les services locaux.
Oui.
Locaux et non pas, donc, alors avec les règles suivantes, c'est-à-dire que une radio commerciale indépendante qui n'est pas autorisée dans d'autres CTA,
D'accord.
dans le territoire d'autres CTA,
oui.
donc nous la gérons, puisque c'est un service local.
D'accord.
Local. En revanche, un service qui a des autorisations, je dis n'importe quoi, en PACA, ou donc c'est les frontières hein, pour nous, en PACA, dans le Massif central ou à Bordeaux, elle nous échappe.
Oui.
Si vous voulez, le CSA qui gère ces services qui ont pris de l'ampleur.
D'accord.
Voilà.
Alors, en parlant de CSA, est-ce que vous connaissez à peu près la date de création du CSA ? Quand est-ce que ça a été créé ?
Alors, ça a été créé en 89.
D'accord.
Donc, c'est une autorité de régulation
oui.
qui succède à d'autres autorités de régulation.
D'accord, on en parlera justement
alors,
un peu plus tard.
Ça, c'est l'histoire, ça, vous l'apprendrez en histoire. Mais c'est très intéressant.
Oui.
Et c'est justement, si vous voulez, la création de satellites, si on peut dire, d'antennes locales, qui ont permis, et antennes locales, s'il vous plaît, dont les présidents étaient des représentants des plus hautes cours administratives, donc qui donnaient une légitimité absolue juridique à ces comités. En général, ils sont présidents de cours administratives, présidents de tribunaux administratifs, par exemple. C'est le cas de notre présidente, Madame Bonmati. Voilà. La création des CTR à l'époque, dans ces conditions, avec une légitimité absolue, a permis à cette autorité de régulation de se maintenir dans l'esprit du public et aussi pour le législateur, parce que il n'y a rien à dire, si vous voulez, alors que d'autres autorités de l'audiovisuel ont pu être critiquées.
D'accord. Alors, pour en revenir avec la radio, est-ce que c'est du coup qui c'est qui attribue les fréquences radio ? Est-ce que c'est le CSA ou est-ce que c'est le CTA du coup sur Toulouse par exemple ?
Alors, il y a deux choses. Tout ce qui est autorisation dans le cadre d'un appel aux candidatures.
Oui.
Ça appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Donc, d'accord.
On fait toute l'instruction. On s'occupe de tous les dossiers, on transmet nos conclusions au Conseil, et c'est bien sûr le Conseil qui attribue les fréquences.
D'accord, donc en gros, moi je suis jeune entrepreneur, je veux monter ma radio,
oui.
C'est auprès de vous que je
vous
dois aller d'abord.
Vous déposez les dossiers.
Auprès du CTA et pas auprès du CSA.
Vous déposez vos dossiers, on fait l'instruction.
D'accord.
On a des tas de choses à dire au CSA par rapport aux dossiers.
D'accord.
Mais le CSA les examine également. Et au final, c'est bien le CSA qui prend la décision finale. Et même si on n'est pas content, d'accord, c'est ainsi.
D'accord, mais vous avez quand même un droit de regard, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vous qui
fait l'instruction.
Voilà, vous allez dire au CSA, bon, mais là, je pense que c'est
on
bon
fait l'instruction pour... ouais. Et on a des arguments, ils sont entendus, pas entendus. En général, ils sont quand même entendus largement. Mais on peut avoir des points sur lesquels on a des divergences.
Et par exemple, si je reprends mon exemple du fait que je sois jeune entrepreneur, est-ce que je peux choisir la fréquence sur laquelle je vais être sur laquelle on va m'écouter ?
Vous pouvez candidater sur,
d'accord.
Puisque le plan de fréquence est clairement exposé dans le texte de l'appel aux candidatures qui paraît au journal officiel.
D'accord.
Donc il vous appartient de dire zone X, fréquence Y, je suis candidat.
Ok, et donc j'imagine que ça a un coût d'attribuer une fréquence. Moi en tant qu'entrepreneur, est-ce que je vais payer quelque chose ?
Et non, vous êtes en France.
D'accord, donc
vous
n'êtes pas payant.
Vous n'êtes pas en Angleterre par exemple.
D'accord, donc c'est différent.
Et donc la communication
encore.
Audiovisuelle est
oui.
libre.
D'accord, donc on a donc ça c'est très important.
Vous êtes en fait quand vous êtes titulaire d'une autorisation, vous êtes titulaire d'une autorisation à titre gracieux qui vous est attribué sur le domaine public.
Donc je n'ai rien à débourser si
vous
je veux.
Vous n'avez rien à débourser, vous avez les frais inhérents à une diffusion.
D'accord.
Si vous êtes autorisé, bien sûr. Mais nous sommes en France, il y a une loi du 30 septembre 86.
Tout à fait.
Et donc c'est cette loi qui régit. Notre communication et vous avez un dossier à présenter, mais évidemment il y a le papier, il y a les photocopies, est-ce que vous voulez, après il y a le reste quand on est autorisé, mais nous sommes en France, nous vendons, les fréquences ne sont pas vendues aux enchères, ce sont des fréquences du domaine public attribuées à titre gracieux, mais cette liberté a une contrepartie, ce sont des règles.
Et oui, directe d'antenne, on va y venir justement tout à l'heure. Juste une dernière question par rapport à la musique. Par exemple, je veux monter ma station musicale, une station musicale. Est-ce que vous, vous jouez un rôle sur la musique qui est diffusée ou c'est quelqu'un d'autre ?
Alors, c'est pas comme ça que ça se...
C'est pour ça que je pose la question.
Il faut revenir à la loi et toujours à la loi.
C'est pour ça que je pose la question.
Voilà. Donc, la loi prévoit un pluralisme des formats
oui.
et des catégories de radio. Les catégories de radio sont définies par le CSA. Mmh. Des radios associatives A jusqu'au D qui sont voilà, les généralistes nationaux.
On y reviendra tout à l'heure également. Voilà.
Ouais, donc, en fonction de l'appel aux candidatures, si c'est un appel aux candidatures sur une zone nouvelle, blanche, où il n'y a rien,
oui.
rien du tout. Donc, il faut que le CSA fasse un équilibre des formats et des catégories. Donc, il essaiera, en fonction des fréquences qui sont disponibles, il essaiera d'assurer le meilleur équilibre.
D'accord. Donc,
il essaiera de faire une radio...
Une radio musicale, une radio...
Alors, musicale, mais musicale pour qui ?
Parce oui,
que c'est l'intérêt du
plusieurs
public.
Tranches d'âge.
Dans la loi, c'est l'intérêt du public.
Oui.
Donc, il faut voir quelle est la zone, quelle est la population sur cette zone, essayer de voir ce qui peut convenir, si votre dossier convient à cette zone.
D'accord, ok. Eh bien, justement, par rapport à la musique, on va y rester avec Power of Stellar dans un instant. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que vous pouvez aller direction le Facebook de Sud Follow Web si vous avez n'importe quelle question à poser à Flore Iborra. On vous retrouve tout de suite d'ailleurs, Madame Iborra, pour parler avec vous des débuts de la radio à partir de 1980, de la radio libre. Et du coup, savoir également dans quelles conditions est né le CSA. Vous allez nous en dire tout de suite juste un petit peu plus. Bougez pas, vous êtes sur Sud Follow Web. De retour sur Sud Follow Web en simultané sur Radio Mer d'Otan et Val Pyrénéos. Pour votre émission Zoom, on vous fait découvrir chaque jour une personne qui compte dans votre quotidien, alors que vous ne la connaissez peut-être pas. Et aujourd'hui, avec nous, Flore Iborra, secrétaire générale du CTA à Toulouse, la succursale locale du CSA, l'autorité régulatrice de l'audiovisuel. Merci d'être avec nous, Madame Iborra. Alors, dans la première partie de cette émission, on a vu que vous jouiez un rôle primordial dans l'attribution des fréquences. Et que le CSA jouait un rôle primordial pour les fréquences. Mais justement, pouvez-vous nous faire un petit historique de la radio ? Comment ça se passait en fait avant la libéralisation des ondes qui est intervenue avec Mitterrand en 81 ?
Rompu une seconde, c'est l'antenne locale, pas la succursale.
L'antenne locale, pardon.
On n'est pas dans le commerce, mais on est dans l'administration.
Tout à fait, donc l'antenne locale,
excusez-moi. Et puis aussi, si vous voulez, il y a une chose que je voudrais revenir sur une chose. Après, on revient très vite sur l'historique.
Oui.
Si nous n'attribuons pas de fréquence, en revanche,
oui.
nous sommes compétents pour les services locaux, donc les A, les B, sur les reconductions d'autorisation. C'est-à-dire, vous êtes autorisé par le CSA. L'autorisation a 5 ans
D'accord.
de validité, mais il faut être reconduit.
Et oui, alors, donc il faut renouveler tous les 5 ans.
Une première fois, donc mm-hmm. On reprend tout ce que fait la radio.
D'accord.
De la structure juridique jusqu'au programme, tout. Et voilà, donc ça c'est la reconduction. Et on est aussi compétent sur les temporaires, les autorisations temporaires. Voilà, donc c'est une précision pour pas qu'on en reste là. Et puis après, toutes les modifications possibles et imaginables, vous changez de bureau dans une association, vous changez de programme, vous allez vers une cible un peu plus jeune, un peu moins jeune, tout ça, on le traite pour les services locaux. Je ferme cette parenthèse de peur que vous ne reveniez pas dessus et avant qu'on ne passe à l'histoire.
À l'historique. Et donc voilà. L'histoire. Donc justement, donc je vous demandais comment ça se passait avant la libéralisation des ondes qui est intervenue donc en 81 avec François Mitterrand.
Oui.
À quoi ça ressemblait le paysage radiophonique de l'époque ?
Ben écoutez, vous aviez un monopole, c'est ça surtout.
D'accord.
Un monopole, quand on dit libéralisation, c'est briser ce monopole avec des expressions différentes. Donc, tout simplement, vous avez eu un florilège d'expressions différentes et après, il a fallu organiser tout cela.
D'accord. Et est-ce qu'il existait justement un modèle de CSA avant cette date, de, avant 86?
Non, il y a eu très vite, avec la libéralisation des ondes, la haute autorité de l'audiovisuel. Mm-hmm. Mais vous savez, c'était quelque chose qui émanait des services du Premier ministre.
D'accord, avant 86, donc.
Oui.
C'est ça, c'est le Premier ministre qui.
Oui. Et d'accord. Donc, c'était des attributions sans planification, vue d'ensemble, sérieuse, par région, par bloc. C'était au fil de l'eau, un peu. J'exagère un peu, mais c'était un peu comme ça. Et après, vous avez eu en succession la CNCL, dès lors qu'il a fallu gérer les aspects, la loi avait permis la publicité, donc il a fallu gérer cette question-là et gérer des autorisations qui n'étaient pas que pour des services radiophoniques, associatifs, ne faisant pas de publicité. Donc il a fallu déjà un peu agencer la régulation dans ce sens.
D'accord.
Et en 89, donc création du CSA.
D'accord.
Qui est une autorité administrative indépendante, donc qui offre les garanties de l'indépendance par rapport à la sphère politique, et qui tire sa légitimité, encore une fois, du fait que, à la tête de ces comités, qui s'appelaient CTR à l'époque, il y a la plus haute personnalité juridique régionale.
D'accord. Ah oui.
Et donc, là, on est hors d'eau par rapport aux politiques indépendantes. Oui. Le CSA n'est plus dans le politique, on n'est plus relié au pouvoir, on est détaché, on est, si vous voulez, c'est comme un ministère, pour faire simple.
Oui.
Vous voyez, une autorité administrative indépendante. Donc, ceci, puis localement, pour éviter tout soupçon, pour avoir vraiment une légitimité, cette fois locale, vous avez la plus haute personnalité juridique qui préside, autorité administrative, donc en général, les tribunaux administratifs, mais pas que.
Donc, d'accord, en gros, pour ceux qui ne connaissaient pas la radio avant la libéralisation des ondes, les radios d'époque n'étaient pas libres, elles devaient obéir.
Elles ne pouvaient pas émettre, elles étaient poursuivies,
voilà,
par la police.
Et les radios qui étaient autorisées de diffusion,
oui,
c'était des radios, en gros, je vais grossir le trait, mais gouvernementales. C'était des radios qui obéissaient au gouvernement.
C'est allé trop loin, elles obéissaient pas au gouvernement, mais l'organisation. Ce phénomène très, 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 très vital, très désordonné aussi, il a fallu s'organiser. Il a fallu organiser les autorisations. Donc ça ne s'est pas fait d'un seul coup, parce qu'il y a eu, ben vous vous rappelez bien que c'est François Mitterrand qui a donné le top départ.
Exactement.
De cette libéralisation. Mmh. Donc c'était dans un contexte historique, politique, revenir à ces manuels pour comprendre, faut reprendre l'histoire du pays qui est contemporaine, faut comprendre le contexte, faut comprendre la décision, faut comprendre l'irruption de toutes ces expressions, et donc après il y a une histoire de l'organisation des autorisations, parce que évidemment tout ça a donné lieu à une loi.
Laquelle ?
La loi du 30 septembre 1986.
Et qui nous dit ?
Eh ben, qui organise et qui explique justement quels sont, puisque là, je vous ai dit que c'était la communication audiovisuelle est libre, mais elle est assortie de règles.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans un média, quel qu'il soit, vous attaquer à des principes fondamentaux sur la dignité de la personne humaine, par exemple. Pas
d'accord.
Possible. Si vous faites ça, c'est plus bon. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères qui sont définis, d'obligations pour tout service, et ensuite, toute autorisation du Conseil, toute autorisation est assorti d'une convention, c'est-à-dire un contrat que vous passez. Vous êtes comme si, musical, comme si, comme ça, mais vous avez la loi, vous devez respecter le corpus de la loi du 30 septembre 86, plus les conditions de votre autorisation. Vous êtes engagé à faire un travail dédié à une cible jeune, avec tant d'heures de programme local, tant d'heures de par exemple, d'informations, de rubriques. C'est votre droit fil, vous devez respecter le contrat.
D'accord. Et moi, j'avais une question également au sujet de l'évolution que vous avez vue, vous, du CSA, depuis les années, depuis la création, depuis 89. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 89, aujourd'hui on est donc en 2016, ou est-ce que c'est les mêmes règles qu'il y avait en 89 et aujourd'hui ?
Alors, déjà, la loi du 30 septembre 86 a été modifiée à plusieurs reprises. Donc, le cadre juridique
a été modifié.
Modifié, mais toujours avec le même esprit. Absolument, le même esprit, mais d'abord, il y a eu des évolutions technologiques, le législateur a réfléchi, mais il n'a pas cassé ce modèle. Ce modèle qui, d'une manière générale, fait la distinction entre le domaine non commercial et le domaine commercial. Et ensuite, le CSA est intervenu pour définir des catégories de radio.
D'accord,
et ces catégories de radio, elles sont là pour, finalement, dans l'esprit de la loi, c'est affiné, si vous voulez, dire qui ponctionne le marché local et comment on ponctionne le marché local.
D'accord. Justement.
Local.
Justement, en parlant de local.
Et qui ponctionne le marché.
En parlant de local, Florie Bora, pour pouvoir passer de la publicité en local, on va parler de ça à présent. Donc, il existe des radios, des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux.
Oui. Par
exemple, je prends un exemple pour nos auditeurs, Energy, Fun Radio, Virgin Radio, tout ça, ce sont des radios qui évoluent en réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ? Comment ces radios peuvent avoir le droit de passer de la publicité en local, puisque quand vous écoutez, vous, les auditeurs, ces radios-là, vous entendez bien que c'est diffusé à Paris, puis d'un seul coup, boum, on entend une pub, ici à Toulouse, on entend une pub, oui, qui parle du petit commerçant,
oui,
du coin.
Oui.
Comment ça se passe ?
Oui, alors déjà, il faut que je vous dise qu'il y a 5 catégories de radios.
Dites-nous, oui.
Donc, déjà, les A, non commerciales.
Associatives.
Oui, elles doivent, pour être éligibles au fonds de soutien qui les finance pour une majeure partie, elles doivent réaliser un volume de publicité locale inférieur à 20% de leur assiette globale. Donc, tout le monde peut faire de la pub, mais déjà, c'est régulé pour les A.
D'accord.
Et évidemment, elles ne sont pas obligées de faire de la pub. Elles peuvent absolument s'abstraire de cette question et ne pas en faire. Donc déjà, ça, c'est la partie non commerciale, avec moins de 20%. Après, vous avez les catégories B indépendantes, qui peuvent réaliser de la publicité locale sur leur zone et alentour de diffusion.
On rappelle que les catégories B, ce sont les radios locales, type à Toulouse, Toulouse FM, par exemple.
Par exemple. Donc, voilà. Publicité, radio commerciale, publicité locale.
D'accord.
Mais publicité aussi nationale, parce que dans leur convention, elles peuvent réaliser via un GIE de la publicité nationale. Donc faire un ensemble publicité locale, publicité nationale. Ensuite, nous arrivons à votre exemple, celui que vous avez choisi. Bon, vous avez des réseaux, pas seulement musicaux, mais disons les plus connus sont les réseaux musicaux, qui sont connus pour leur contenu local, c'est-à-dire réalisation d'un minimum, à cette condition, 3 heures de programme d'intérêt local.
D'accord.
Y compris de la musique qu'on va entendre si on est à Paris.
Oui.
Mais speak, rubrique, etc., local.
Alors, les speak, c'est
les paroles.
Les paroles, la temps de parole.
C'est leur vocabulaire.
Oui, tout à fait. Mais
c'est le vocabulaire des catégories C.
Exactement,
donc
je m'adresse aux auditeurs pour qu'ils
le reprennent, pour qu'ils
comprennent bien.
Donc, c'est une petite intervention en bon français,
voilà,
qui de l'animateur, et qui anime donc, et puis aussi il peut y avoir, et c'est bien souvent le cas, des informations locales.
D'accord.
Par des journalistes. Donc ces gens-là font de la pub locale qui est aussi régulée en fonction de leur temps de programme local. Après, nous étions au C.
Au D.
Nous passons au D. Alors là, c'est purement national. C'est-à-dire que les émetteurs sont à Paris, le programme est à Paris, et on peut envoyer ce programme. Ben, je dis Jazz FM, par exemple, pour changer un peu.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Et nous, donc, eux, ils font de la publicité nationale. C'est-à-dire que vous êtes à Lille et vous entendez de la publicité nationale pour une marque de voiture. Et vous entendrez cette publicité nationale sur toutes les antennes de Jazz FM ou de classique, de radio classique. Hein? Bon, ensuite, vous avez les E, mm-hmm. les généralistes nationales. Mm-hmm. Donc, vous savez que Sud Radio est ici ou là aussi en E. Hein? Donc, ça, oui. C'est national.
Oui.
En général, il s'agit de programmes à vocation nationale d'information.
Oui, type Europe 1, France Inter. Non, pas France Inter.
Non, France Inter, c'est le service public.
C'est ça, c'est le service public, exactement. Mais bon, on peut l'apparenter, ça ressemble pour les auditeurs au E.
Non,
pour
même
les auditeurs.
Pas,
pour
même
les auditeurs.
Pas, même pas.
Même pas pour vous.
Même pas,
d'accord.
Même pas, même pas.
Alors c'est... expliquez-nous la différence.
Ben, c'est une. Parce que si vous voulez, dans les généralistes d'information, toutes ne font pas un généraliste étendu comme les radios du service public.
D'accord.
La radio du service public, elle est tendue à l'extrême vers la satisfaction de tous ses auditeurs sur l'ensemble du territoire avec une multitude d'émetteurs. Donc, il faut savoir que, par exemple, sur France Musique, vous pouvez avoir des émissions de variété.
D'accord.
Vous pouvez avoir à des heures pointues et précises des émissions sur le rap. Et on est sur l'antenne de France Musique, comme vous pouvez avoir des émissions de World Music. Voilà, vous entendez des émissions sur des chanteurs des steppes de Mongolie. Bon, vous voyez.
Tout à fait, je vois très bien. Vous parliez d'évolution, et bien justement, on va parler de l'évolution et du futur de la radio. Comment vous, Fleur Iborra, vous le voyez au travers de vos yeux de secrétaire général du CTA à Toulouse dans quelques instants. Juste avant ça, Aymeric va nous rejoindre pour nous parler, pour nous faire un petit historique également de la radio. Pour la musique, il y aura Minuit avec Flash, mais tout de suite, on va rester en 80, donc l'année de libéralisation des ondes. En 80, Richard Sanderson fait un carton avec Reality, c'est la BO du film La Boom. Vous êtes sur Sud Fola Web. Ne me mentez pas, je suis sûr que vous avez dansé un slow sur cette chanson des années 80, je rappelle, l'année de libéralisation des ondes. C'était spécial dédicace pour vous, Richard Sanderson, Reality, tiré de la BO du film La Boom. On retrouve tout de suite Aymeric, qui nous a préparé une chronique justement sur l'évolution de la radio depuis 81, Aymeric.
Oui, bonjour Julien et bonjour Madame Iborra. Oui, j'ai fait une petite recherche. Alors, on va démarrer avant 81. Donc, il faut rappeler, on l'a évoqué il y a quelques minutes, que les radios étaient contrôlées par l'État. Seules sont alors autorisées les radios de service public et quelques stations dites périphériques comme Europe 1, RMC ou encore RTL. L'information est partiellement sous le contrôle du gouvernement. Vers la fin des années 70, de nombreuses personnes commencent à souhaiter une alternative à ces programmes officiels. La bande FM donne des idées à de nombreux pionniers qui créent des radios associatives ou communautaires. Ils émettent sans autorisation avec du matériel à bas coût, installé sur les toits d'immeubles parfois. Des radios pirates commencent à apparaître dans toute la France pour exprimer des contestations politiques et sociales. On quitte l'époque de la mainmise des radios étatiques pour une nouvelle ère de la radio de proximité aux multiples contenus. L'État dénonce le risque d'anarchie et fait brouiller les émissions clandestines et parfois il envoie la police saisir les émetteurs. De nombreuses protestations s'élèvent contre cette forme de censure et elles reçoivent notamment l'appui à l'époque du Parti Socialiste à l'approche des élections présidentielles. François Mitterrand, alors candidat face à la Valérie Giscard d'Estaing, promet sur la radio clandestine Riposte de mettre fin au monopole d'État, ce qui lui vaut à l'époque une mise en examen. Et un an après sa mise en examen, il est élu en 1981 et dès le lendemain de son élection, on assiste à l'essor des radios libres, totalement indépendantes de l'État, directement issues des radios pirates. Alors, l'explosion l'explosion, pardon, des radios libres se retrouve légitimée par la loi de 1981. Les émissions de l'ensemble des radios libres deviennent tolérées en attendant une loi leur attribuant un réel statut. Mitterrand met alors en place la loi Fillou le 29 juillet 1982. Cette loi, du nom de son ministre de la Communication de l'époque, autorise les radios indépendantes à émettre, ce qui met définitivement fin au monopole de l'État sur la bande FM. Les radios clandestines deviennent alors des RLP, c'est-à-dire des radios locales privées, mais de nombreuses concessions sont faites. La puissance des émissions doit être limitée, les stations ne doivent pas former de réseau et la publicité est encore interdite à l'antenne. Ce dernier point cause tout de suite des problèmes pour le financement des radios, du coup certaines vont employer de la publicité déguisée. Les associations de radios se forment et font pression sur le gouvernement afin d'obtenir le droit à la diffusion de la publicité. Ce droit va finalement leur être accordé en 1984. Ce droit à diffuser de la publicité impose aux radios locales privées de faire un choix. Le monde de la radio se scinde alors en deux, ceux pour qui les ondes doivent être un outil de communication sociale, les radios associatives et ceux qui souhaitent offrir leur espace aux annonceurs, les radios dites commerciales. Dans le premier cas, ce sont les animateurs qui participent au financement de leur station et l'État verse tout de même une aide provenant des revenus publicitaires d'autres radios. Les radios devenues commerciales ont pour effet de transformer les auditeurs en consommateurs. Ces radios ont pour but de séduire le public et d'attirer les annonceurs. C'est alors qu'une logique de concurrence va alors se développer entre les radios locales privées et de nombreuses stations des premières heures vont disparaître. Par exemple, nous avons Carbone 14 qui était une station parisienne des premières heures de la libération des ondes qui refuse de se doter d'un agencement de programmes structurés et se saborde. Le public change, il veut des émissions plus régulières, plus de professionnalisme dans l'animation et à cause de leurs difficultés financières, de nombreuses radios locales privées meurent ou se réunissent sous une bannière devenant ainsi une maille d'un réseau. Et pour subsister, des stations locales vont s'associer sous un nom commun. C'est la station Énergie qui a appliqué la première ce principe de franchise au monde de la radio. En 1986, la loi Léotard, autorise la constitution de réseaux commerciaux qui auront le droit de couvrir jusqu'à 150 millions d'auditeurs potentiels avec leurs différentes stations. Du coup, face à ça, le gouvernement décide de réagir pour limiter ses pratiques de rachat des radios locales par les stations les plus importantes et pour réguler la bande FM, il crée le CSA en 1989 qui a également pour mission de surveiller le contenu des émissions. Depuis 1994, les radios libres sont classées par catégorie avec leurs obligations respectives. Les radios de catégorie A, les associatives, de catégorie B, les locales indépendantes comme 100%, les catégories C qui sont des locales franchisées comme Energipo, les catégories D, les réseaux comme Skyrock et catégorie E, les généralistes comme Europe 1. Alors depuis 20 ans, le paysage radiophonique n'a pas énormément changé depuis le début de la professionnalisation des animateurs radio et des métiers de la radio dans sa globalité. Alors, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à un tournant ou une stabilisation du paysage radiophonique? C'est la question qu'on peut aujourd'hui se poser.
Merci beaucoup Aymeric. Flori Bora, une réaction très courte peut-être à ce qui vient de revivre. Vous êtes d'accord avec...
Oui, oui, c'est bien, ouais, c'est bien exposé.
Bon, merci. Très bien. Merci beaucoup Aymeric.
Merci à toi Julien.
Alors, justement j'ai une question sur Facebook de Eric qui vous pose à vous Madame Ibora. Les radios, qu'elles soient commerciales ou associatives, ont-elles les mêmes exigences en matière de quotas français? Parce qu'on parle beaucoup de quotas actuellement. Donc, est-ce que les radios asso ont les mêmes exigences que les radios commerciales
pour... Oui,
les quotas.
Un minimum de 40%.
D'accord, pour tout le monde.
Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est aussi en relation avec les exigences concernant les nouvelles productions.
D'accord.
Donc, on peut faire plus que 40% et donc avoir des exigences. Il y a des... Si vous voulez, c'est corrélé. Mm-hmm. Donc par rapport aux nouveaux talents, nouvelles productions et le taux, mais on ne peut pas aller moins de 40%.
D'accord. Alors je rappelle aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre que vous êtes sur Sud Follow Web en simultané sur Radium, Air d'Otan et Val Pyrénéos. On va parler à présent du futur de la radio. Comment vous, Flori Bora, je rappelle que vous êtes la présidente...
La secrétaire générale
du CTA Toulousain.
CTA Toulouse.
Voilà, tout à fait. Et donc, comment vous voyez l'évolution de la radio, de vos propres yeux? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer?
Très prochainement, il y a le lancement d'un appel aux candidatures en radio numérique terrestre.
D'accord. Alors justement, qu'est-ce que la radio numérique terrestre?
Mais écoutez, c'est une nouvelle technologie. Bon, on connaît surtout le DAB+, mais l'avantage, c'est que il semblerait que le son soit meilleur, qu'on puisse aussi associer des données visuelles. Donc, si vous faites, vous parlez d'un chanteur, vous pouvez avoir le disque là qui s'affiche sur l'écran.
Sur l'écran de la radio, par exemple. J'écoute ma radio dans ma voiture là, j'entends la musique.
Vous voyez l'affiche du concert.
D'accord.
Vous avez.
C'est l'équivalent de la TNT à la télévision, c'est bien ça ?
C'est une avancée technologique qui va révolutionner les choses, puisque il n'y aura pas seulement une radio, un émetteur, mais un groupement dans un multiplex et une possibilité d'avoir plus de services entendus. Le choix va être augmenté. Effectivement, l'exemple de la TNT est bon dans ce sens, puisque vous allez pouvoir écouter beaucoup plus de radio.
Oui.
Alors évidemment que les gens qui sont autorisés actuellement ne vont pas disparaître sur la RNT, bien au contraire, mais il y aura de la place aussi pour d'autres.
D'accord, mais
c'est en 2016, pour Toulouse, un appel est lancé.
Donc est-ce que la bande FM va disparaître ?
Du tout.
Donc il y aura les deux en
absolument.
Côte à côte.
Et la technologie permet d'avoir des postes multifonctions.
Mais est-ce que quelqu'un qui n'a, par exemple dans ma voiture, moi j'ai un poste FM qui n'est pas équipé pour recevoir la RNT.
Oui, vous devez le changer.
Donc je devrais le changer pour pouvoir recevoir la RNT, c'est-à-dire
si
que...
vous pensez que ça vaut le coup et qu'il y a des services en RNT que vous n'avez pas en FM, vous dites « Oh là là, vraiment, c'est dommage, vous allez vous équiper. »
Mais est-ce que les radios qu'on connaît aujourd'hui vont cesser d'émettre en FM et vont...
Non.
Elles vont faire les deux, RNT et FM ? D'accord, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Double diffusion, ce qui correspond à des coûts plus élevés, mais pas si catastrophiques, puisque entre-temps la technologie a évolué, entre-temps nos voisins européens, Belgique, Angleterre, Allemagne. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'en France, on était à la pointe de la technologie, mais...
On l'est plus.
On pouvait avoir tous les marchés, mais comme il n'y a pas eu la volonté de l'État d'y aller...
On a pris du retard.
Mais quelque part, à quelque chose, malheur est bon, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on a des auditeurs européens et on peut s'inspirer de leur expérience. On peut, les postes existent et on peut les trouver. Disons qu'on pourra acquérir quelque chose autour de 50 euros et pouvoir écouter de la RNT. En 2017.
Vous parliez des coûts de la RNT. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour les petites stations locales qui, pour l'instant, sont à FM et qui n'auront pas les moyens de se développer en RNT ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces stations disparaître de notre visuel, de notre paysage ?
C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit.
Et oui.
Mais ce n'est pas nécessairement le cas, puisque ça représente des coûts, certes, mais qu'il n'est pas certain qu'en en se groupant et en ayant des moyens mis en commun, elles n'arrivent pas non plus à s'en sortir. Point d'interrogation aujourd'hui sur des subventions spécifiques dédiées à la RNT qui pourraient être accordées aux radios de catégorie A par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Mmh. Point d'interrogation au moment où on parle. Mais c'est un dossier qui ne manquera pas d'être soulevé encore et encore. Et en ce qui concerne les zones, il faut savoir que c'est une avancée, la RNT, qui est progressive, zone par zone, mais que ça ne se fera pas en une année comme pour la télévision numérique terrestre.
D'accord.
Donc, pendant que à Toulouse, par exemple, où les zones qui sont des zones non étendues, vous pouvez aller sur le site du CSA, www.csa.fr.
Tout à fait.
Vous voyez la radio, vous voyez la RNT, vous voyez le calendrier.
Oui.
Et là, c'est très édifiant. Vous allez voir que pour Toulouse, il y a un grand Toulouse, une zone étendue, une zone pas étendue. Et en Midi-Pyrénées et un peu en Languedoc-Roussillon, il y a des zones locales. Et donc, ça va avoir une avancée. Après, en 2018, ce sera Languedoc-Roussillon.
Et oui, tout à fait.
Hein voilà, donc l'avenir de la radio, c'est ça.
D'accord.
C'est dans ce champ-là que des nouveautés vont apparaître ou que des modifications vont apparaître, par exemple, sur les programmes locaux.
Avant de terminer cette émission, Flori Bora, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu ensemble, si vous voulez bien mettre le casque qui est à côté de vous. Fleur Ibora. On va jouer ensemble, et même vous les auditeurs, je vous invite à jouer avec nous. Je vais vous mettre des jingles et vous allez devoir deviner de quelle radio il s'agit. Vous êtes
OK? Pas très rassuré, mais
non, rassurez-vous, c'est pas compliqué. Attention, on y va. Premier jingle. Attention, est-ce que vous êtes prête, Fleur Ibora?
Oui.
C'est parti.
Ouais, ça c'est une radio nationale, bien
tout
sûr.
À fait.
Ouais.
Et c'est,
je sais.
Ça commence par un R.
RTL.
RTL, bravo Fleur Ibora, bonne réponse. Attention, on y va, deuxième jingle, facile aussi, c'est parti. Alors c'est une radio également nationale qui fait de l'info.
Oui, c'est...
France Info, bravo. Bravo, allez, une petite dernière pour la route, vous allez reconnaître certainement...
Énergie.
Bravo, et... bonne réponse Fleur Ibora. Bah, écoutez, vous êtes calé en, en son radio. Chose. Merci beaucoup en tout cas Fleur Ibora d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du CTA à Toulouse, la branche locale du CSA. Que peut-on vous souhaiter pour la suite?
Bah écoutez, faut souhaiter aux radios, la radio est un média extraordinaire, exceptionnel, donc il faut lui souhaiter de continuer sur l'inventivité, sur de plaire au public, de créer une alternative aussi à l'image.
D'accord.
C'est très important.
Merci beaucoup Fleur Ibora, vous êtes sur Sudfo la Web. Merci à vous.
Merci.
Demain dans Zoom, rendez-vous à 11h avec Selma qui reçoit David Gérard qui nous parle de la grande époque de Sud Radio. Merci encore Fleur Ibora. Passez une très belle après-midi sur Sudfo la Web.